Réduction de peine. Le grand bond en arrière. Par Camille Polony. Lu par Arnaud Romain.
Mediapart.
Sous ses apparences très techniques, le texte examiné par l'Assemblée nationale en commission des lois la semaine dernière et en séance publique à partir du 17 mai opère une véritable révolution philosophique. Outre la possibilité de filmer certaines audiences, la généralisation des cours criminelles départementales et un encadrement accru des enquêtes préliminaires, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire comprend un volet pénitentiaire qui modifie en profondeur le régime des réductions de peine accordées aux détenus. Le ministre de la Justice justifie cette réforme par sa volonté d'inciter les condamnés au travail et de favoriser leur mérite. Dans le système actuel, un condamné qui entre en prison, hors terrorisme, bénéficie dès l'origine d'un crédit de réduction de peine, CRP, permettant d'avancer sa date de sortie. Le barème est fixé d'avance, 3 mois de réduction de peine pour la première année, 2 mois pour chacune des années suivantes et 7 jours par mois supplémentaires. Un homme condamné à 2 ans et demi de prison, par exemple, sait qu'il pourrait sortir au bout de 2 ans, sauf si une faute de sa part venait changer la donne. Le dispositif ressemble à celui du permis à points. Doté d'un capital de départ, le détenu doit s'employer à le conserver. On présume que les condamnés se comporteront bien en prison, sauf preuve du contraire. En cas de mauvaise conduite ou d'incident, que celui-ci ait donné lieu ou non à la sanction disciplinaire, le directeur de la prison, comme le procureur de la République, peuvent saisir le juge d'application des peines pour demander le retrait des CRP, certes accordé de manière automatique, mais pas définitivement acquis. La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire vise à inverser cette logique. À partir du 1er janvier 2023, le détenu partirait de zéro. Il devrait gagner ses réductions de peine au fur et à mesure, en démontrant sa bonne conduite et ses efforts de réinsertion. C'est-à-dire, peu ou prou, ce qu'il faisait déjà jusqu'ici pour obtenir des réductions supplémentaires de peine, RSP, au-delà du quota de départ. Respecter le règlement et le personnel, mais aussi suivre des cours ou une formation, apprendre à lire, passer un examen, participer à des activités culturelles ou sportives, commencer une thérapie, indemniser les victimes. Lors de la discussion du texte en commission des lois, jeudi 6 mai, Éric Dupond-Moretti a répété quelques-unes de ses formules fétiches. « Le sens de l'effort n'est pas un sens interdit. » « Il faut que les règles de la société civile aient cours en prison. » Ou encore, « L'automaticité, c'est pour les machines, pas pour les êtres humains. » Le système actuel, jugé incompréhensible pour nos citoyens dans l'étude d'impact du projet de loi, faisait pourtant l'unanimité depuis plus de 15 ans. En 2004, constatant que les juges d'application des peines étaient surchargés de demandes, la loi Perben II crée ce crédit de réduction de peine. Elle limite ainsi l'intervention du juge aux demandes de retrait de crédit et à l'octroi de RSP. Plus simple, plus économe en temps, le CRP constituait en quelque sorte un pari de confiance. Tout en gardant la possibilité de manier le bâton, en retirant des crédits, et la carotte, en octroyant des réductions supplémentaires. Ludovic Fausset, administrateur de l'Association nationale des juges d'application des peines, l'ANJAP, regrette « Le projet de loi remet en cause un système très complexe qui a mis une dizaine d'années à s'installer avec des ajustements successifs. » En mars, Éric Dupond-Moretti affirmait que les juges d'application des peines étaient prêts. Dans un communiqué, l'ANJAP répondait directement au ministre « Non, nous ne sommes pas prêts. » Elle demandait une réforme d'une toute autre nature, rappelant que le CRP vise à responsabiliser le condamné et à l'inciter à respecter les règlements pénitentiaires. Si la grande majorité des personnes détenues conservent ce crédit de réduction de peine, c'est parce qu'elles observent un bon comportement tout au long de leur peine. Ils permettent aux condamnés, pourvu qu'il ne commette pas d'incident, de connaître sa date de libération assez tôt dans l'exécution de sa peine, et ainsi préparer son projet de sortie. Pour les partisans du régime actuel, cette prévisibilité n'est ni un détail ni un simple confort. C'est ce qu'explique Delphine Bossel, avocate spécialisée dans l'accompagnement des longues peines et présidente de l'Observatoire international des prisons. Aujourd'hui, le condamné est informé des potentialités de retrait. Il sait aussi que sa peine pourra à nouveau diminuer si on lui accorde des réductions supplémentaires pour ses efforts. Cela permet de se fixer des objectifs. Le conseiller d'insertion et de probation sait combien de temps il a pour travailler avec lui. Faire croire que quelqu'un qui ne fait rien sortira en même temps que quelqu'un qui fait des efforts est un mensonge. Je suis scandalisé qu'un ancien avocat, devenu ministre de la Justice, puisse affirmer cela devant des journalistes sans être contredit. L'avocat Mathieu Quinqui, membre du Syndicat des avocats de France, SAF, de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, et de l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, A3D, considère que le gouvernement a cédé au populisme pénal. Soucieux de ne rien céder à l'exigence de sévérité qu'il croit attachée à sa fonction, Éric Dupond-Moretti ouvre un débat sur la base des faits erronés et formule des propositions simplistes. Pire, il crée les conditions d'un accroissement de la surpopulation carcérale, vient limiter les perspectives de libération des personnes condamnées et aggraver les conditions de la vie carcérale. Quelles sont les conséquences prévisibles de cette réforme ? L'étude d'impact du projet de loi dresse un bilan chiffré de la pratique actuelle et envisage différents scénarios. En 2019, seuls 8% des crédits de réduction de peine ont été retirés par les JAP, soit 740 000 jours sur près de 9 millions. Ils ont également accordé 3 millions de jours de réduction supplémentaire de peine, c'est-à-dire 45% de ce qu'ils pouvaient prononcer au total. Une fois les deux systèmes fusionnés, il faudrait que les demandes de réduction de peine soient acceptées à 68%, ou plus, pour que la surpopulation carcérale n'augmente pas. Si le taux d'acceptation n'atteignait que 45%, comme c'est le cas aujourd'hui pour les réductions supplémentaires, cela entraînerait 10 000 détenus de plus. Le rapporteur de la commission des lois, Stéphane Mazard, juge cependant que c'est peu probable. Le ministre a complété « Je n'ai pas peur de ce que vont faire les JAP ». Delphine Boissel commente « C'est un pari à mon sens très risqué sur la coopération des magistrats ». Ludovic Fausset reconnaît « Tout dépend de la manière dont on va appliquer la loi. A priori, c'est un régime plus sévère, même s'il paraît équivalent sur le papier ». Le Conseil d'État, dans son avis du 8 avril, estime de son côté que ce nouveau système est de nature à générer des disparités de traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d'appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas. Comme avant 2004, le nombre de dossiers devant les commissions d'application des peines est appelé à augmenter. L'étude d'impact prévoit donc qu'elle dure en moyenne de 20 à 25% plus long. Dans les gros établissements comme Fleury-Mérogis, ce problème d'embouteillage est pris très au sérieux. Les difficultés risquent surtout de frapper les condamnés à de courtes peines, ceux qui ont le plus de mal à travailler ou pratiquer des activités. Dès le 1er avril, l'OIP fustigeait une mesure en total décalage avec les réalités carcérales. On sait qu'à peine plus d'un quart de la population carcérale a accès à un travail faute d'offres, qu'une personne sur quatre peut accéder à un enseignement et moins d'une sur six à une formation professionnelle, toujours faute d'offres et de moyens, et qu'il faut bien souvent de longs mois pour obtenir une consultation avec un psychiatre ou un psychologue. Éric Dupond-Moretti l'a rappelé lui-même. En quelques années, la proportion de détenus qui travaillent est passée de 50% à 29%. Le ministre estime néanmoins que ses efforts dans ce domaine seront suffisants. Le projet de loi prévoit une réelle amélioration du statut des détenus qui travaillent. Ceux-ci se verraient proposer un vrai contrat, respectant le code du travail et attaché à des droits sociaux, chômage, retraite, maladie. Le ministre a également rencontré des patrons pour les convaincre d'employer des détenus. Et pourtant, un gros point de désaccord entre Éric Dupond-Moretti et ses opposants, qui lui reprochent de mettre la charrue avant les bœufs en poussant les détenus à travailler sans leur en donner immédiatement les moyens. À l'Assemblée, le député LFI Hugo Bernalicis a ainsi invité le ministre à créer davantage de postes de travail en prison pour régler le problème des listes d'attente, plutôt que de prendre des mesures démagogues. L'avocate Delphine Bessel le rejoint sur ce point. Ce discours autour de l'effort et du mérite est méprisant pour les personnes détenues. Éric Dupond-Moretti leur donne une leçon de morale, alors que pour beaucoup, l'oisiveté est subie. Se lever le matin, d'accord, mais pourquoi faire? Il n'y a que 2 psys ou 2 enseignants pour 1000 personnes. C'est un cercle vicieux. En ne permettant pas aux prisons de se vider, on ne donne pas les moyens à ceux qui y sont de pratiquer des activités. Ludovic Fosset reprend. On inverse complètement les choses. L'obligation d'activité est à la charge de l'administration pénitentiaire, qui est incapable de le faire. Tous les condamnés demandent à avoir des activités. Au centre pénitentiaire de Fresnes, il y a plusieurs mois d'attente, même pour le sport. Dans le cas des courtes peines, l'examen de situation devra intervenir très tôt, dès le 6e mois pour une peine d'un an. Dans ce contexte, Ludovic Dosset et l'ANJAP constatent que les juges ne pourront que récompenser les intentions de condamnés inscrits sur liste d'attente. La décision arrivera juste avant leur sortie, d'autant que, dans le même temps, le projet de loi veut systématiser les libérations sous contrainte, 3 mois avant le terme de la peine. Mediapart.